Donc l'IFOP, je ne sais pas si ça fonctionne. Va venir. Voilà. Donc une étude. Alors l'IFOP, c'est l'agence des opinions hein, et des relevés médias. Les médias. Donc l'IFOP, en juillet 2021, révèle que 71% des Français ont le sentiment que les injustices donc, en France augmentent. Et les personnes interrogées donc, disent que l'injustice la plus insupportable, c'est de ne pas pouvoir manger à sa faim et nourrir ses enfants. Puis arrive donc la discrimination et l'insécurité. En réalité, parfois nous entendons des témoignages auxquels, bien sûr, nous sommes sensibles parce que ça peut arriver à chacun. Hein, et c'est ça qui nous fait réfléchir. Une femme avait donné ce témoignage suite à un AVC. J'ai tout perdu. Je suis passé d'un revenu annuel de 42 000 euros en 2019 au RSA avec 680 euros par mois. Pour moi et ma fille, c'est une violence assez importante. Donc on perd tous ses repères, on perd sa dignité. Heureusement que j'ai ma mère pour nous loger, ma fille et moi, sinon on serait restés dehors. Hein. Alors bien sûr, les plus touchés par cette précarité restent ceux qui subissent un accident de la vie, hein. Les travailleurs indépendants, il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des familles monoparentales. Et ce n'est pas seulement un problème en France ou ailleurs. C'est un problème qui concerne le monde. Alors, c'est vrai que les chiffres sont un peu faussés. Je ne sais pas ce qui. Alors, qui a eu les rouges là? Ouais, vous êtes les losers du jour, hein, désolé. Hein? En fait, les chiffres sont un peu biaisés parce que dans certains pays, si on vit à peine avec 15 euros par jour ou par mois, ou difficilement, c'est le seuil de pauvreté. En France, avec 2 euros par mois, on ne vit pas. Par jour, on ne vit pas. Hein? Donc, la pauvreté est calculée par rapport au seuil. On parle de seuil de pauvreté. Avec combien quelqu'un peut vivre décemment en France, évidemment, qui n'est pas le même chiffre qu'ailleurs. Alors, la France, une personne sur 6 donc vit sous le seuil de pauvreté monétaire. Une personne sur 6, 14,6%. C'est quand même important, ça concerne 9,2 millions de personnes. Et elle est au 10e donc, des classements en Europe. Alors, le premier pays européen avec cette grande difficulté, c'est la Grèce. Alors bien sûr, c'est un thème qui est incontournable dans les discussions donc, autour de nos candidats. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. La question de la justice. Et heureusement hein, qu'on parle et qu'on entend. La question de la justice sociale. Alors, je ne sais pas si nos candidats ce matin ont un programme qui tient la route, hein, mais c'est un sujet auquel on leur pose des questions. Alors, il y a des candidats très sincères qui ont réfléchi, hein, et d'autres, bon, se plient voilà, à la demande de l'actualité, hein. Et Dieu merci, nous n'avons pas attendu les politiques pour répondre au problème de la précarité et de l'injustice sociale. Beaucoup d'associations depuis des décennies se plonge et travaille en vue d'une meilleure justice. C'est Timothée Keller qui disait, dans notre société, en réalité, nous sommes profondément divisés quant à la définition du terme de justice. Il y a des personnes qui ont des points de vue diamétralement opposés concernant la justice. Par exemple, les partisans de l'avortement s'opposent à d'autres qui estiment. Chacun estime que c'est une question de justice. Les questions de discrimination positive, question de justice. Les uns disent c'est ainsi, les autres opposés. Alors, chacun parle pour une question de justice. Et ce qui va nous intéresser à nous, c'est qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Hein? Il y a le monde qui débat et débat et débat, mais le chrétien, qu'est-ce qu'il doit penser de tout cela? Tout d'abord, la question de la justice n'est pas une histoire seulement que de pouvoir d'achat. On est d'accord avec ça, hein? Alors, qu'est-ce que la Bible pense de cela? Tout d'abord, Dieu est absolument, depuis qu'il s'exprime aux hommes, depuis qu'il se révèle, absolument au clair avec cette question. Ésaïe 56, par exemple, nous dit, Ainsi Dieu parle, observez le droit et pratiquez la justice. Ah, ce n'est pas une option, hein? Car Mon salut, dit le Seigneur, est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Dieu est un Dieu de justice. Heureusement. Alléluia. Ouais, on est d'accord. Hein? Heureusement, hein, si c'était entre les mains des hommes, ah, ça serait catastrophique. Hein? Dieu est un Dieu de justice. Et il dit que nous devons pratiquer la justice. Jésus dira même, car je vous le dis ici, votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, ben vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il y a une exigence, un niveau. Et Jésus dit aussi, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, cela. Donc, cette justice existe. Et Paul, encore, continuera à dire aux chrétiens, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice. Alors, ces chrétiens, cette question a toujours interpellé les chrétiens. L'Église ne s'est pas un jour réveillée en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour la justice? La mentalité et la question de la justice est intégrée dans la pensée de l'Église. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas les vengeurs masqués, hein, nous ne sommes pas Zorro, hein, mais quand même, nous devons pratiquer la justice parce que Dieu nous le demande. Alors, de manière concrète, comment est-ce que ça va se passer? Après, nous parlons de l'exemple de Jésus. Tout d'abord, pratiquer la justice, c'est prendre soin des personnes vulnérables. C'est cela. Hein? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Vous savez, il y avait une grande discussion chez les chrétiens de Rome. Est-ce qu'il faut manger ceci? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas boire? Etc. Paul dit non, arrêtez. Ne vous focalisez pas sur des questions qui sont secondaires. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice. Hein? Le psaume 146 nous dit que Dieu lui-même, donc c'est un caractère de Dieu, hein, eh bien, aime cette justice, il reflète cette justice, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel relâche les prisonniers, il aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Alors, on sait que le but de Dieu, c'est de s'occuper des plus vulnérables, de s'intéresser à cela. Et dans l'Ancien Testament, il y avait quatre catégories de personnes vulnérables. Et c'est Proverbe 31 qui dit ceci, hein, « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. » Alors, les quatre catégories, ce sont l'orphelin, la veuve, le pauvre et le migrant, les plus fragiles de la société. Facile de les exploiter comme Israël l'a fait et comme les prophètes l'ont dénoncé, auxquels Dieu nous dit, eh bien, auxquels il faut porter secours. Hein. Alors, pratiquer la justice, en réalité, c'est contraignant. Ça coûte quelque chose. On est tellement bien au chaud à la maison. On est tellement, quand on est tranquille, on ne veut pas être embêté, hein. En fait, les personnes qui sont dans des situations compliquées nous interpellent notre générosité et la gestion de nos ressources, hein, notre manière de vivre, notre égoïsme. Hein. Et c'est vrai que des fois, nous-mêmes, on est surpris par notre égoïsme. Alors, il y a un dessin qui est pas mal, c'est voilà l'équilibre parfait, hein, qu'un PDG propose. Hein. Voilà l'équilibre parfait. Hein. Une distribution injuste des richesses. Hein. C'est vrai que les entreprises qui licencient sont des entreprises qui font du bénéfice extraordinaire. Oh, c'est très compliqué de gérer ça. Hein. On laisse aux politiques le soin de le gérer. C'est Patrice Collangean qui disait ceci. Force est de constater que la cupidité de certains rend les pauvres encore plus pauvres et donc plus vulnérables. Si une vision claire de l'humanité, des changements structurels et des profondeurs s'impose, ce qu'il faut, c'est surtout un changement de cœur. Ah, et oui, un changement de cœur. Alors, la question se pose à nous sur le plan personnel. Nous aimerions vivre, bien sûr, dans un monde où on partage les richesses, hein, où on pourrait voir une amélioration de la vie, des progrès. Mais on constate que c'est quand même compliqué, hein, de voir des gens qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent. Merci. Donc, c'est un engagement qui coûte quelque chose. Parce que ça va coûter en temps, ça va coûter peut-être, on va voilà, se sacrifier sur un point pour pouvoir payer, etc. Pratiquer la justice, c'est quelque chose qui coûte. C'est aussi quelque chose qui nous pousse à aimer comme Dieu nous a aimés. Alors ça, mon frère, ma soeur, c'est le cœur de l'évangile. Hein? Il s'agit du royaume de Dieu. Jésus est venu manifester de la manière que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Alors les pharisiens qui détenaient la connaissance de Dieu, eh bien, avaient une foi qui était ritualiste. Et Jésus leur dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les plantes potagères. À ce point, ils étaient précis. Mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Pratiquer la justice fait partie, non pas doit faire partie, mais fait partie du style de vie chrétien. Imaginez si le monde se mobilisait comme Jésus le demandait. Imaginez, ne serait-ce que si nos dirigeants réfléchissaient un peu à la lumière de l'Évangile. Hein? Il paraît qu'un homme politique qui sème la zizanie en Europe de l'Est a cité la Bible cette semaine devant son peuple. Il a dit, en référence à l'Évangile, eh bien, voilà ce que dit la Bible. Hein? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh, c'est choquant, dans un contexte de guerre, d'agresseur. Hein? Est-ce que le monde a compris le message de Jésus? Aimer Dieu comme il nous a aimés. Et le dernier point que l'on pourrait dire, c'est que la pratique de la justice prend sa source dans sa relation avec Dieu. Plus nous vivons en proximité avec Dieu, plus nous expérimentons l'amour de Jésus-Christ pour nous et son regard sur les autres. Nous sommes tellement prompts dans notre esprit à juger hein, quand quelqu'un est différent de nous. Hein. Et c'est vrai que c'est ce que Dieu soulignait hein, depuis déjà les prophètes. Amos, par exemple, dit, car enfant de Jacob, d'Israël, je sais vos crimes. Ils sont nombreux, vos péchés sont énormes, parce que vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte, vous évincez les pauvres, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Alors, le secret de la présence avec Dieu, ça se passe dans cette relation intime. C'est pourquoi Jésus a dit à la foule, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Eh oui, on aime bien être montré, voilà ce qu'on fait, mais en réalité, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le secret des cœurs. C'est Daniel Ilion qui fait remarquer ceci. Il dit que le sens de la justice et de l'injustice est très ancré en chacun de nous, même si cette question produit des réactions très fortes. C'est pas juste. Hein, cette expression qui est souvent employée, même par les enfants, et l'une des premières hein, qu'il apprend à prononcer, représente davantage un cri qu'une analyse réfléchie qu'il serait possible de discuter sereinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité que vous, comme moi, chacun d'entre nous, nous avons une vision qui est déformée, une réalité qui est déformée. Parfois, Dieu est obligé de nous faire passer par une situation difficile pour comprendre ce que c'est qu'être vulnérable. Notre manière de voir est déformée. Nos réactions et nos idées sont liées à notre histoire personnelle. Hein? On avait interviewé lors de l'époque des Gilets jaunes Emmanuel Macron en lui demandant, est-ce que vous les comprenez? Il revendiquait le fait qu'on ne peut pas vivre avec 1 000 euros par mois. Et lui disait, oui, je sais ce que c'est, j'ai perçu aussi 1 000 euros par mois quand j'étais étudiant. Ah, hey, quand on est trop déconnecté, hein, alors voilà, c'est votez qui vous voulez, hein, enfin qui vous voulez. Je m'entends, attention aux extrêmes, hein, mais c'est une réalité que, après, l'homme politique se mord les doigts d'avoir dit quelque chose qui lui a échappé. Hein. Je n'accuse personne, je dis seulement que parfois nous avons besoin de de toucher ce qu'est la vulnérabilité pour le comprendre. Et notre histoire personnelle, eh bien, nous sert à trouver voilà, ce qui est juste et pas juste. D'ailleurs, dans le sketch, c'est apparu. Chacun avait une histoire et regardait le monde à travers ses propres lunettes. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Le Seigneur nous demande de regarder la question de la justice avec son regard, avec sa pensée. D'ailleurs, Jésus était confronté à cela. Vous savez, quand les disciples ont vu qu'il était rejeté des villages de Samarie, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas juste. Seigneur, commande au feu du ciel. Veux-tu que nous commandions au feu du ciel de tomber sur ce village? Jésus a dit, attendez, c'est pas juste. Qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, il va raconter l'histoire du bon samaritain par rapport à qu'est-ce qui est juste de faire avec son prochain. Et puis, les disciples étaient devant une foule affamée et ils ne savent pas quoi faire. Et ils disent, mais Jésus, regarde, ils sont là. Et Jésus leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Nous avons besoin de nous laisser imprégner de la pensée de Dieu pour faire ce qui est juste. Et nous pouvons être inspirés par l'histoire que Jésus raconte concernant un lépreux. Hein. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, mais dire seulement que cette histoire, c'est une histoire qui se passe quand Jésus descend de la montagne. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 8. Et voici qu'une grande foule le suit. Et dans cette foule, il y a un lépreux. Et ce lépreux-là va se prosterner devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, Jésus étendit la main. Et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne et va te montrer au sacrificateur. Présente l'offrande que Moïse t'a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Alors, cette courte histoire est très intéressante parce qu'elle nous montre qu'un homme se trouve dans une situation d'injustice sociale absolue. Il est atteint physiquement, il est atteint humainement, il est atteint au niveau de son implication sociale et économique. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, de la loi, qu'est-ce qu'il, voilà. En fait, il a juste une question, il a juste une demande à faire à Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Son état le fait, était tel qu'il était exclu de la société. Il ne pouvait pas entrer dans un lieu, il ne pouvait pas serrer des mains, etc. Hein? Il ne pouvait pas être reçu. L'intervention de Jésus, dit Patrice Collangean, est humaine, spirituelle et prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Humaine, ça veut dire que Jésus va aider l'homme en détresse. Spirituel, parce que Jésus donne du crédit à sa prédication, et prophétique, parce que Jésus annonce la croix où il descendra dans les profondeurs de notre misère. Alors, on peut retenir rapidement quatre verbes actifs dans cette situation. Premier verbe, c'est que Jésus a accueilli ce lépreux. Il a accepté d'être à sa proximité de quelqu'un qui était contagieux. Et ce geste d'amour, eh bien, était coûteux et risqué. Il nous enseigne à apprécier les pauvres, les miséreux, à saisir les opportunités. Comme Christ nous a accueillis, nous sommes appelés à accueillir. La deuxième des choses, c'est écouter. Jésus a écouté cet homme, il a donné de l'importance à ce miséreux. On a posé un jour la question c'était sur Arte, je crois, à un SDF. On lui disait, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Il était à Paris, donc devant la bouche d'un métro. Il a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de milliers de personnes qui passent par ici tous les jours. Ce n'est pas qu'ils me donnent ou pas, mais aucun ne me regarde. Personne ne me dit un simple bonjour. Ah, c'est quelque chose, hein? Nous, on peut être offusqués de ça. Mais quand on est, voilà, dans cette foule, on réagit peut-être pas mieux que les autres, hein? L'évangile de Marc nous dit que Jésus a eu compassion de ce lépreux. Il ne s'est pas détourné. Il l'a écouté. Il a pris du temps. Et c'est vrai que ça demande du temps. Accueillir, écouter. Et puis il y a le fait que Jésus a agi. Alors, c'est délicat son action parce qu'il va toucher quelqu'un qui est lépreux. Hein. On m'a demandé si, en tant que pasteur, je voulais faire des visites dans les hôpitaux pendant la période de la COVID. Hein, parce que Jésus a touché les lépreux. Bon, ce n'était pas la COVID, hein, c'était pire que ça. Hein. Alors, il est évident qu'on sait très bien, quand on va quelque part, on est aussi confronté à des décisions. Hein. À ce niveau-là, bien sûr, les précautions sont importantes. Hein. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Eh bien, il l'a fait pour montrer qu'il était exposé à notre misère. Alors, on ne sait pas si c'est à cause de ce contact que l'évangile de Luc nous dit qu'il s'est mis à l'écart et qu'il a évité de rentrer dans les villes. Hein. Alors, ça, c'est juste une question. Hein. Rien ne nous dit que c'est à cause de cela. Mais les gens qui étaient à côté, on lui dirait, il a touché les lépreux. Faut faire attention à lui. Hein. Pratiquer la justice nous entraîne parfois à consentir des sacrifices personnels durables. Vous savez que pendant la période des grandes pestes, il y a des chrétiens qui ont décidé d'aider ceux qui étaient pestiférés au péril de leur vie. Et les églises ont été ont eu un témoignage absolument remarquable parmi les païens en disant, mais pourquoi ils sont allés au prix de leur vie, au prix de leur vie, accueillir, agir, écouter et accompagner. Alors Jésus n'a pas laissé comme ça, il a accompagné, va te montrer au sacrificateur. Alors souvent on dit, on met une tension, est-ce qu'il faut aider les pauvres, les démunis, ceux qui vivent des injustices sociales, est-ce qu'on peut aussi les évangéliser en même temps? Parce que évidemment, vous profitez de cela pour les évangéliser. Eh bien en réalité, il n'y a pas de tension entre les deux choses. La Bible ne fait pas la séparation entre j'aide sans parler du Seigneur. C'est parce que nous sommes touchés par la grâce que nous allons aider. La Bible n'est pas désincarnée. Elle est là. Vous savez, quand on faisait des aides humanitaires ailleurs, on donnait aussi des ouvrages chrétiens pour les enfants, pour du matériel. Et les gens disaient, mais attendez, vous êtes en train de faire de la propagande. Ah non, non. Nous distribuons seulement ce qui nous motive à les aider. Et ça, c'est important d'être au clair à ce niveau-là. Alors, il est vrai que quand on parle d'injustice sociale, nous pensons automatiquement à la pauvreté. Et pratiquer la justice, c'est aider les pauvres. Mais quand nous nous appliquons au niveau biblique, nous remarquons que pratiquer la justice n'a pas qu'un sens social. Dans les prophètes et dans le Nouveau Testament, pratiquer la justice, c'est aussi mettre sa vie en conformité avec la loi de Dieu. Quand je suis fidèle, je pratique la justice. Quand je ne mens pas, je pratique la justice. Etc., etc. En réalité, nous avons besoin de nous laisser renouveler par l'opinion de Dieu plutôt que l'opinion des hommes. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En conclusion, nous avons vu que la pratique de la justice chez le chrétien est finalement une loi. Dans l'Ancien Testament, on pratiquait la justice et on avait des récompenses qui venaient, hein, assez régulières, enfin terrestres et proches. Mais au Nouveau Testament, on est sauvé par la foi. Et donc les œuvres, c'est ce que Dieu nous a préparé. Alors comment pratiquer la justice? Eh bien, on pourrait dire que nous sommes appelés à pratiquer la justice dans la perspective du retour de Jésus. Pour ce monde, la pauvreté n'aura jamais de fin. Jamais. Toutes les associations, tous les discours depuis des siècles qui ont promis d'éradiquer la pauvreté n'ont jamais abouti à éradiquer la pauvreté. Jésus l'a dit simplement, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Aïe! Alors ça nous fait penser un peu au mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mythe grec où il y a un gars qui est puni, il s'appelle Sisyphe, il est puni par les dieux qui étaient capricieux, de monter une pierre en haut de la montagne. C'était son truc. Et quand la pierre arrivait en haut de la montagne, attraction terrestre, hein, elle retombait. Et il devait, etc. Et ça finissait jamais. Si nous pensons éradiquer la pauvreté et les injustices sociales, nous allons devenir fous. Ça ne finit jamais. Et la guerre en Ukraine rajoute, hein, et les réfugiés rajoutent cette problématique. Mais Dieu merci, nous avons le message suivant, que Jésus va revenir et il va instaurer sa justice dans le monde et il va nous demander à chacun d'entre nous ce que nous aurons fait des talents qu'il nous a confiés par rapport à ceux qui étaient démunis. Cette réalité du proche du Seigneur, donc cette, voilà, c'est une réalité hein, que Jésus va venir, eh bien, doit être en nous une réelle motivation. Paul le dit, c'est l'heure de vous réveiller, parce que les Romains dormaient un peu, hein, enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul dira, voici ce que je dis, le temps est court. Et l'apôtre Pierre dit, la fin de toutes choses est proche, et dans l'Apocalypse de Jean, voici, dit Jésus, je viens. Notre combat contre la justice aura une fin. Et c'est cela l'espérance chrétienne. Nous sommes appelés à œuvrer, nous sommes appelés à nous soucier, mais nous sommes aussi appelés à témoigner que Jésus, un jour, rétablira toutes choses. L'espérance imminente de son retour devrait être notre énergie pour nous faire avancer. Et je vous laisse cette parole de l'apôtre Paul. Hein? Il nous faut être irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous devez briller parmi eux. Merci Seigneur pour toutes les ONG, pour toutes ces associations humanitaires qui aident le monde. Mais en tant que chrétien, notre message est aussi d'apporter hein, cette lumière que nous avons reçue du Seigneur. En pensant à cela, je me dis, Seigneur, oh, on est vraiment petit. Et de l'autre côté, je me dis, Seigneur, c'est vraiment énorme et c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de briller dans ce monde comme des flambeaux.